Nous sommes à la fin du chapitre 6e de Saint Jean, ce chapitre 6e que nous avons médité durant les dimanches du mois d'août. C'est le chapitre du pain de vie où Jésus révèle qu'il est ce pain qui se vient du ciel et qui mange son corps, boit son sang à la vie éternelle. Et là, on est à la fin de ce chapitre. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin de ce chapitre, de cette révélation assez incroyable, il faut le dire, extraordinaire tout du moins? On voit qu'il y a des doutes. Mais est-ce que cet homme déraisonne ou pas? Parce que qui peut dire de façon sensée que manger son corps et boire son sang donne la vie éternelle? Évidemment, si on n'a pas la lecture de l'Eucharistie, on ne comprend rien du tout de ça. Et donc il y a un acte de foi à poser, un peu comme au moment de la création, face à l'interdit que Dieu avait donné à Adam et Ève: vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre du bien et du mal, vous pouvez manger de tous les autres fruits, mais celui-là non. Il y avait un acte de foi à poser. Et là aussi, est-ce que vous croyez que mes paroles sont esprit et vie, ou est-ce que vous ne croyez pas? D'une certaine manière, c'est une autre épreuve. Et on le sait bien que l'autre manière de dire épreuve, c'est tentation. Dès qu'on a des épreuves, c'est qu'on a aussi des tentations, et la tentation est aussi une épreuve. Et là, c'est l'épreuve ultime, c'est l'épreuve de la foi. Est-ce que oui ou non, les disciples qui entourent le Christ, et qui étaient nombreux, semble-t-il, il est au début de son ministère apostolique, est-ce que oui ou non, on va croire sur ses paroles? Et puis ensuite, beaucoup partir. Cette parole est rude, c'est sûr qu'elle est rude, elle est encore rude de notre temps, même si je trouve qu'il est plus facile de croire en l'Eucharistie aujourd'hui que du temps où Jésus lui-même prononçait ce discours, parce que nous avons des siècles de célébration, de théologie, de sainteté, qui nous aident dans ce mystère de la foi. Nous allons dire tout à l'heure, il est grand le mystère de la foi. Le mystère de la foi, c'est l'Eucharistie, c'est croire en les paroles que Jésus nous a dites. Eh bien, mais on voit bien qu'il y a des doutes. On voit qu'il y a des doutes, et peut-être ce doute aussi peut nous envahir. Ça c'est sûr. Et on voit que certains, voilà, partent. Et puis, ils se retournent vers les disciples, pour le coup, vers les apôtres, vers les 12. Ils parlaient aux disciples. Les disciples disent non, écoute, cette parole est trop libre. Ils se retournent vers les apôtres. Et vous, est-ce que vous voulez partir? Mais à qui rions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est Saint-Pierre qui prend la parole. Et pour plusieurs raisons, il prend la parole. Parce qu'il y a un lien indissoluble entre l'Eucharistie et l'Église. Alors qu'il n'a pas été encore institué chef de l'Église, mais mu par le Saint-Esprit, il a cette parole prophétique. Mais à qui rions-nous? Y a-t-il d'autres chemins? Parce que c'est quand même une question. Est-ce qu'il y a d'autres chemins qui à la fois répondent à ma soif d'absolu, qui répondent à cette appel à la communion et à l'amour que le Seigneur nous adresse? Est-ce qu'il y a d'autres chemins que de croire en Jésus qui nous plénifie, qui plénifie la personne humaine, qui nous emmène dans un face-à-face avec Dieu, dans une intimité absolument étonnante qu'est la communion eucharistique? Est-ce qu'il y a d'autres chemins? Je me souviens comme ça de cette jeune fille qui, très enracinée dans sa foi, mais avec beaucoup de tentations par rapport à la foi. J'ai parfois envie de tout envoyer balader. J'ai envie de tout envoyer promener. Parce que c'est, quelque part, cette parole est trop dure, elle est trop rude, et il y a des paroles encore plus rudes après. Pardonner aux ennemis, c'est très rude. Devenir serviteur, c'est rude. Les béatitudes, c'est rude. Je veux dire, il y a beaucoup de paroles qui sont d'une très grande exigence. Et elle dit, mais est-ce qu'au fond, ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de croire en Jésus? Et puis, on sentait qu'il y avait tout un combat spirituel, comme il y a un combat spirituel autour de l'Eucharistie. Autour de l'Eucharistie, il y a un combat spirituel, il y a des tentations. Il y a un combat dans la manière de célébrer, par exemple. Il y a un combat dans la liturgie. C'est un lieu de combat, c'est pas un lieu paisible, la liturgie. Il y a un combat en lien avec l'Église, forcément, puisque c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. D'où l'importance que surgissent dans le peuple chrétien des vocations de prêtres. Parce que à chaque fois qu'on célèbre comme nous le célébrons ici, c'est l'Église tout entière qui est présente. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu dans l'Eucharistie. Et comment sortir au fond de cette tentation, ou parfois ces doutes, ou parfois ces questionnements qui sont légitimes. On a le droit de se questionner. Comment en sortir? Bien, on a un peu une réponse dans la première lecture. La première lecture où justement il y avait aussi une épreuve. Il y a une épreuve qui a été donnée aux anciens d'Israël. Voilà, Josué qui, au fond, on se veut dire aussi Jésus. Jésus, Josué, c'est la même origine. Et donc, il dit, est-ce que vous voulez servir le Seigneur ou est-ce que vous voulez servir d'autres dieux? Et qu'est-ce qui va les aider à servir le Seigneur? Ils ont fait mémoire. Ils ont fait mémoire. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, de cette maison d'esclavage. Ils font mémoire. Faire mémoire, voilà le remède à la tentation contre la foi. Faire mémoire des dons de Dieu. Et cette jeune fille dont je vous parlais, elle a fait mémoire de ce qu'elle a reçu du Seigneur. Et nous aussi, si nous sommes tentés par d'autres chemins, mais on voit bien que, et particulièrement s'adresse aux jeunes, de nombreuses paroles, mais qui ne sont pas des paroles de vie. Mais du coup, c'est important de faire mémoire, mais qu'est-ce que me donne le Seigneur quand je lis l'Évangile? En quoi ça rejoint un désir profond, une source de vie? En quoi je vois un exemple d'amour qui va jusqu'au bout? Et en quoi ça me brûle le cœur, tels les disciples d'Emmaüs? Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous parlait en chemin? Qui, comme le Christ, pourra répondre à ce désir et d'amour et de transcendance et de proximité et de divinité? Personne. C'est tout. Personne. Alors c'est vrai que il faut se mettre en chemin. C'est un lieu pour nous de l'Eucharistie, ce mystère de la foi, comme nous l'allons le proclamer. Eh bien, c'est aussi, vous l'avez remarqué, l'Eucharistie. C'est le lieu de la mémoire. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie, sinon faire mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur? Et c'est ça, c'est le pain de la route. C'est le pain d'effort pour nous qui sommes faibles. C'est le pain de vie pour nous qui avons des attitudes mortifères. Mais on fait mémoire dans l'Eucharistie, et non pas mémoire comme quelque chose du passé, comme on va faire mémoire, je ne sais pas quoi, de l'armistice de 1918 et du centenaire. Non, non, la mémoire dans la dimension biblique, la mémoire, elle renvoie au présent. Elle rend présent quelque chose du passé. Faire mémoire, c'est être face à la grâce qui nous a été donnée. C'est ça, faire mémoire. C'est pas vivre dans la nostalgie. Et donc on voit bien que faire mémoire dans l'Eucharistie, ça rend présent, c'est une présence réelle de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. C'est ça, c'est important. D'où l'importance de, pour durer, pour franchir les épreuves, faire mémoire. Parce que, évidemment, il y a un combat. Alors on va demander au Seigneur qu'il nous aide dans ce combat, on va lui demander qu'il nous donne toutes les forces, d'où l'importance d'être fidèle dans cette participation dominicale à l'Eucharistie, comme vous tentez d'être fidèle, parce que c'est d'Eucharistie en Eucharistie que j'approfondis ma foi, que le don de la foi m'est donné, que quand j'approche de la communion, je dis Amen, ça veut dire c'est vrai. Et pourquoi je pense que c'est vrai? Parce que tout simplement Jésus l'a dit. Pourquoi je crois en la présence réelle du Seigneur au Saint-Sacrement? Pourquoi croire? C'est la réponse, elle est toute simple. Parce que Jésus l'a dit. Point. C'est pour ça qu'on croit. On peut faire beaucoup d'argumentations philosophiques, théologiques, c'est bien de les faire, mais à un moment donné, il y a une confiance. Est-ce que je crois en cet homme qui n'a jamais parlé comme un autre homme? Est-ce que je crois en... Si vous ne croyez pas aux paroles, dit Jésus, croyez au moins aux œuvres. Croyez à l'aveugle Bartimée qui a retrouvé la vue, croyez à Lazare qui a retrouvé la vie. Et c'est important, si nous-mêmes aussi nous sommes dans un désert spirituel et on se demande, mais est-ce le bon chemin? Il y a parfois des chemins qui semblent plus chatoyants, plus faciles, peut-être moins exigeants. Voilà, mais est-ce que ça va répondre avec l'intensité que nous avons à l'intérieur, les expériences que nous avons faites du Seigneur? Si nous sommes ici, c'est que nous avons fait des expériences du Seigneur. Sinon, nous ne serions pas ici. Ou nous sommes en quête d'eux. Nous sommes en chemin d'eux. Acquirions-nous? Acquirions-nous? Y a-t-il d'autres chemins? Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Alors, frères et sœurs bien-aimés, on va demander au Seigneur qui nous donne cette force qui vient de l'Eucharistie, qui affermit notre foi, cette force qui nous permet de franchir les épreuves du doute et de la peur, qui nous aide à faire mémoire, à rendre présent les grâces du Seigneur. Et nous pourrions, pendant ce court instant de méditation, refaire mémoire des grâces reçues lors de communion eucharistique, mais lors de moments de prière, lors d'intimité avec le Seigneur, afin que nous soyons les disciples d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.